une rediffusion.
Grand reportage.
C'est une mission complexe avec plusieurs aéronefs, beaucoup de membres d'équipage. C'est-à-dire qu'au moment où on va aller les récupérer, on veut que la zone soit sûre qu'il y ait le minimum de menaces en place. Donc c'est pour ça que la personne peut être amenée à se déplacer sur plusieurs jours pour rejoindre une zone de récup sûre.
Éjecte, 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 disent les équipages au moment d'abandonner en catastrophe leur aéronef. Mais une fois au sol, en zone hostile, il faut échapper à l'ennemi. Dans ce cadre, la base aérienne 120 de Cazaux abrite le centre de formation à la survie et au sauvetage. Il faut sauver les pilotes, c'est un grand reportage de Franck Alexandre.
On se grime le visage, on essaie d'être le moins repérable possible, de se fondre dans la nature tout simplement, que ce soit en mouvement ou dans notre cache.
Leur éjection a été simulée au crépuscule. Ils sont une quinzaine de stagiaires, il y a là des pilotes de chasse, d'hélicoptères, d'avions tactiques et des navigateurs. Par une nuit sans lune, ils ont progressé par petits groupes dans l'épaisse forêt de pins du sud-ouest de la France avec pour seul vêtement une combinaison de vol kaki et sur les épaules un paquetage contenant un très précieux matériel.
Alors le plus important, la radio et aussi balise de détresse, ce qui permet de communiquer avec les secours et ce qui nous permet d'organiser la récupération. Ensuite, tout un tas d'autres matériels. On a un couteau, un peu de corde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les moyens de signalisation, une lampe à éclat. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Évidemment de l'eau. On a des pochettes d'eau de 100 ml. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours intéressant de pouvoir boire, surtout dans les phases où on soit en marche ou alors on travaille sur notre abri. Et ensuite, dans le paquetage de sauvetage, il reste... Là, on a un sac de couchage et une protection Gore-Tex, une pelle. Et est-ce que j'oublie des choses ? Sûrement. On a beaucoup d'affaires sur nous. L'équipement, elle est pas mal conçu, je crois.
I confirm you maintain frequency until contact with the fighter.
S'ils sont isolés, les pilotes ne sont pas vraiment seuls. Le major Charlie, instructeur au centre de formation à la survie et au sauvetage, veille sur eux, une radio en main, une carte d'état-major dans l'autre.
Je suis mes stagiaires tout au long de leur progression, à l'aide donc de la balise et de l'échange de coordonnées, et ce qui me permet d'avoir une estimation de leur progression et de leur position au cas où on ait besoin de venir leur prêter main forte. C'est une araignée, nous on va fonctionner par rapport à un point de référence imaginaire, et on va avoir un cap distance par rapport à ce point. Les caps sont marqués, les distances sont prédéfinies, et donc si le stagiaire me dit qu'il est dans le 194 pour 8 nautiques, eh ben je sais qu'il est exactement à ce point-là. C'est-à-dire qu'au moment où on va aller les récupérer, on veut que la zone soit sûre qu'il y ait le minimum de menaces en place. Donc c'est pour ça que la personne peut être amenée à se déplacer sur plusieurs jours pour rejoindre une zone de récup sûre. Et peut-être se cacher en attendant que la mission soit possible. Là, ici, au dernier moment, on les a amenés à des points de repli où ils peuvent confectionner une cache, enterrée ou semi-enterrée. Et quand la fenêtre de récup sera possible, on leur demandera de rejoindre une zone où un hélicoptère peut poser, où ils peuvent être récupérés par grappe ou par n'importe quel autre moyen.
Réagir au plus juste, une affaire de réflexe, mais aussi d'automatisme, c'est un apprentissage, martèle au stagiaire, le capitaine Stéphane, commando de l'air, devenu aujourd'hui l'un des piliers du stage survie.
Suite à une éjection, suite à un crash, à partir de là, ils doivent mettre en œuvre toutes les procédures qu'on leur apprend, de façon progressive, dérouler donc une partie évasion de façon à rejoindre une zone en toute sécurité, bien sûr sous le contrôle bienveillant de la force. C'est être confronté à la réalité de la situation, rester le plus lucide possible de façon à appliquer les bonnes procédures et les bonnes techniques. Leur survie en dépend.
On considère que lors de l'éjection ou à l'atterrissage ou lors du crash, ils ont perdu une grande partie de leur équipement.
Major Charlie.
Ils ne disposent pas non plus, par exemple, de la voile de parachute qui peut servir pour confectionner un duvet. Donc ils ont un minimum d'équipement, ils ont quand même un poncho qui permet de faire une isolation par rapport à la pluie. Ils sont très restreints en eau puisque la durée est courte. Donc si on veut leur faire toucher du doigt le rationnement d'eau, la déshydratation, on ne leur donne qu'un litre d'eau, pour les 24 heures.
C'est quand le prochain point radio avec eux ?
Et bien là actuellement, ils ont un chasseur qui est donc sur leur position. Ils sont en communication avec ce chasseur qui effectivement va jouer ce rôle de prise en charge et technique par rapport à la menace, mais aussi par rapport à leur situation physique, hydratation, nourriture, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir être récupérés.
Ce chasseur, c'est l'ange gardien des pilotes éjectés en zone hostile, sourit le capitaine instructeur Richard, lui-même navigateur sur Mirage 2000. Car l'avion peut impressionner l'ennemi, surtout s'il frôle la cime des arbres.
Ce type de passage, c'est un show of force, c'est-à-dire que c'est une action à grande vitesse, basse altitude. On peut avoir plusieurs buts tactiques en cas de bataille, de reprendre l'initiative sur l'ennemi. Ça peut également avoir pour objectif de dissuader l'ennemi d'approcher une zone, ou en tout cas lui faire savoir qu'on est présent avec notre armement.
Les personnels navigants des trois armées doivent nécessairement suivre le stage. Chaque année, ils sont ainsi près de 600 à venir se former sur la base de Cazaux au sein du CF2S, le centre de formation à la survie et au sauvetage. Unité unique en France, dont le lieutenant-colonel Alain est le commandant en second.
C'est une petite entité pas forcément très connue dans l'armée de l'air. En revanche, l'ensemble des équipages la découvrent très très vite, puisque dès le début du cursus pilote, il passe entre nos mains pour les différents stages de survie, qu'ils sont en temps de paix ou en temps de guerre. Nous sommes 38 en tout. 38 majoritairement des commandos. C'est la population essentielle pour la partie survie, pour la partie terrain. On a la chance d'avoir 4 plongeurs pour toute la partie subaquatique en cas d'amérissage ou de crash en mer. Ça fait partie de la mission, c'est-à-dire que quand on est projeté, nul n'est à l'abri, tôt ou tard, de potentiellement avoir ou un souci technique ou être pris à partie. D'où ce volet survie une fois au sol en territoire hostile.
Le 30 août 1995, un Mirage 2000 est abattu en Bosnie. Après s'être éjecté, les deux membres d'équipage sont arrêtés par les forces serbes de Bosnie. Ils ne seront libérés que 3 mois plus tard. Un traumatisme pour l'armée de l'air. Décision fut alors prise de former les pilotes au sauvetage et à la survie, et ce, en collaboration avec les alliés. Capitaine Stéphane, instructeur.
L'échange est primordial dans la méthode, dans les techniques, dans les différents équipements qui équipent les forces. D'ailleurs, on participe à ces échanges, on les fait vivre. Ce qu'on appelle des workshops sont organisés assez régulièrement, voire plusieurs dans l'année, et on échange de façon à justement prendre le meilleur chez chacun. Ça me semble primordial d'avoir de l'ouverture dans tous les domaines, quels qu'ils soient, la survie en fait partie.
Lieutenant-colonel Alain.
Sur la plupart de nos théâtres, nous sommes aujourd'hui engagés en milieu interallié. Et l'objectif, lorsqu'un pilote, qu'il soit français ou étranger, est à récupérer en milieu hostile, c'est que ces procédures soient standardisées entre pays otaniens, en interalliés, de manière à récupérer au mieux et au plus vite, selon les mêmes procédures, un pilote éjecté, quelle que soit sa nationalité.
Retour en forêt, tel l'aspirant Maxime, les stagiaires, après une nuit blanche, ont atteint leur zone d'attente.
On prépare notre cage depuis ce matin, aux environs de 6h du matin. C'est plus le froid qui est désagréable que le sommeil, pour le coup. L'attente, après, quand on est occupé, c'est toujours pareil, c'est plus facile. Maintenant, avec le froid et la nuit qui tombe, ça devient moins agréable, c'est sûr. C'est aller de créneau radio en créneau radio et d'attendre des informations sur une éventuelle récupération.
Se fondre dans la nature, c'est l'objectif. Revue des caches avec le major Charlie.
Vous voyez, ça vous permet, là, comme vous avez fait 3 caches différentes, et ben finalement de vous comparer et de tirer les avantages d'une cache et les inconvénients de l'autre. Là, typiquement, on a quasiment les 3 cas de figure. Une complètement pas du tout enterrée, enfin limite, je me roule en boule dans un bosquet. Du semi, mais j'ai pas eu le temps de finir et je suis encore à découvert. À une cache terminée, mais qui est dans le passage. Ne serait-ce que l'arbre mort en travers, qui fait que moi, je n'ai pas l'idée de venir marcher et on est bon.
La cache dans le passage est celle de l'aspirant Maxime, navigateur de combat.
Ça ressemble à une forme de tombe avec un quadrillage de bois dessus, avec de la mousse pour se camoufler et avec une partie qui permet d'ouvrir et de veiller un petit peu, d'être aux aguets un peu en se mettant assis dans la cache.
C'est assez profond ?
Ça fait une soixantaine de centimètres de profondeur. Donc on peut être allongé ou à demi assis.
Il vous a fallu combien de temps pour le creuser ?
À peu près 5 heures, 5 heures et demie.
Alors qu'est-ce qui pêche dans cette cache ? Parce que quand on la voit, elle semble assez parfaite. Hein. On la distingue pas du reste de la forêt avec ses mousses et ses fougères.
C'est qu'elle est un peu trop dans le passage. Il n'y a pas d'obstacle devant elle. Du coup, naturellement, on peut venir à passer dessus, à marcher, donc à découvrir la personne en dessous. Et deux, trois petits détails comme la terre qui est un peu retournée, quelques trucs ont été déplacés autour qui peuvent donner des indices à quelqu'un qui nous rechercherait.
Dans cette cache, on a voulu opter pour...
Aspirant Thomas, jeune pilote de Rafale.
Un abri recouvert par des feuillages. Et malheureusement, il y a des zones de trous, ce qui fait que on peut être repéré par quelqu'un qui arriverait. Donc voilà, ça a amélioré pour la prochaine nuit.
Le froid, la faim, les visages sont marqués, en particulier celui du jeune aspirant Mathias.
Là, je me mets au chaud et j'en profite, quoi. Si... Je me rappelle d'un instructeur qui me disait commando, il a faim, il mange, commando, il a soif, il boit, commando, il est fatigué, il dort. Enfin, dès qu'on peut, dès qu'on a l'opportunité, voilà, si on estime que c'est faisable, ces petites choses-là sur le terrain, faut pas hésiter à les prendre parce que ça permet de se régénérer. C'est quand même important, quoi. Faut se préserver aussi, quoi, faut y penser. Hein. On arrive chacun avec un potentiel en fonction de nos expériences de vie. Puis des fois, on se surprend. Après, bon, on va dire, c'est... Vous avez beau passer une semaine dehors, vous dites allez demain on retourne passer une semaine dehors, vous aurez toujours pas envie, mais par contre vous saurez mieux comment gérer pour être moins fatigué à la fin de la semaine. Quoi. On va dire que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre.
Et de tous les maux, certifie le major Charlie, c'est la soif le plus dangereux.
Dès qu'on est déshydraté, on a du mal à se concentrer, à réfléchir. Et tout le travail de communication et de coordonnées, ou de conversion par exemple de coordonnées, devient quand même relativement laborieux. Et effectivement, une erreur sur une coordonnée peut engendrer une distance vite de plusieurs kilomètres. Si on n'est pas suffisamment hydraté et alimenté, et le manque de sommeil aussi, hein, les capacités de réflexion sont quand même amoindries.
À fond, à fond. On ne lâche rien.
On peut rencontrer des gens qui finalement se résignent. On peut se dire, tant pis, je vais passer une mauvaise nuit, je me roule en boule. Et ça ira mieux demain. Et effectivement, nous, on les pousse à essayer de donner le maximum pour, non pas peut-être survivre, parce que de toute façon, on n'en est pas là dans nos stages sur une courte durée, mais au moins essayer de travailler dur, donner le maximum pour avoir le meilleur confort. Ce qui quand même, ne serait-ce que sur une nuit, par des températures faibles, peut être très dangereux. L'hypothermie peut vite arriver.
Avant la nuit, dernier conseil du capitaine Stéphane, derniers encouragements aussi.
Ça mérite encore d'être revalorisé un petit peu, quoi. Donc moi, je vous invite à faire ce qu'il faut avant la tombée de la nuit. Okay. Hein, de façon à ce que vous préserviez vraiment toutes vos chances. Ça marche ?
Bien.
Allez, bon boulot et continuez encore, c'est pas terminé, quoi.
Bien.
Je vais quand même prendre une image.
La nuit est tombée, les hommes du sergent-chef B en colonne pénètrent dans la forêt. Ce soir, ils jouent les plastrons, les ennemis chargés de débusquer les pilotes. Et les chiens sont de la partie.
Il s'appelle Land, berger malinois. C'est un mâle, il a 4 ans. Il est spécialisé en patrouille éclairage, il a de la boutique, il est meilleur que moi. Il sait les sentir, il sait les repérer de loin et rien que l'entendre marcher dans les bois, ouais, ça va leur faire peur, je pense. S'ils sont mal cachés, il va les voir tout de suite.
C'est une nuit étoilée, pas un souffle d'air. La nuit du chasseur se félicite le sergent-chef avant de ratisser la forêt.
C'est d'un autre faveur.
C'est une nuit en votre faveur.
Ah ouais, parce que là, il n'y a pas de bruit du tout et on attend vachement tout. Ça, c'est leur ennemi. Quand il n'y a pas de pluie, ils sont merdés parce qu'avec la pluie, ils peuvent progresser facilement. Ça le cache. Du coup, ils progressent vachement vite. Mais quand il n'y a pas de pluie, on s'est calme, on attend tout.
On entend tout. Et en quelques minutes, première capture.
Un bruit comme ça, ça a suffi pour le trouver. Comme j'étais tout seul, j'ai mis la lumière directement là où j'ai vu et puis je les ai vus.
Sous le halo des projecteurs, un premier pilote sort de sa cage.
Ça va, ça va. Bon, un peu étonné, ça a été vite. On sait que du coup maintenant ça va être un peu plus difficile. Mais bon, on continue et ça va le faire.
Un stagiaire avec le moral dans les chaussettes, mais aux yeux de l'instructeur Stéphane, c'est le métier qui rentre.
Étant donné que l'objectif du stage, c'est justement d'éviter d'être capturé. Donc oui, il y a forcément une remise en question. Ils savent quels sont les points faibles, quelles sont les différentes choses dont il faut se méfier, surtout la nuit. Les sons, les mouvements, et là c'est du concret, quoi. La sanction, elle est immédiate, donc c'est absolument positif, puisque c'est des erreurs qu'ils ne recommettront pas.
Allez. Le jour se lève à peine, la radio grésille, c'est l'heure du pick-up.
Ça s'est très bien passé, disons dans les conditions spartiates, et dans notre abri, on a réussi à se reposer quand même. La faim, ouais, effectivement, il y en a, mais c'est assez gérable. Le plus important, c'est la soif. Il faut vraiment essayer de ne pas manquer d'eau. On attend le pick-up avec impatience. Il faut rester dedans pour justement se faire récupérer. Et dans les meilleures conditions.
Les codes d'identification à nouveau sont échangés et déjà se présente l'hélicoptère. Pour les pilotes, la libération est proche, du moins le pense-t-il. À peine à bord de l'appareil, c'est la douche froide, ils sont faits prisonniers. Atterrissage au CAC, le module de conduite après capture, un austère bâtiment aux fenêtres obstruées, et pour rendre le lieu plus sinistre encore, il y a l'ambiance sonore. Le note au poignet, sac sur la tête, les stagiaires vont être soumis à la question. Comme cela pourrait se produire en zone de guerre, et à l'instar de véritables acteurs, les instructeurs se glissent dans le rôle et les vêtements de miliciens, de terroristes.
Alors je suis équipé de type un peu guerrier Ross, milice, donc treillis dépareillés un peu partout, des gants, une cagoule, une petzel, vu qu'on évolue pas mal aussi dans le noir, pour vraiment les laisser le plus possible dans le flou et leur perte de repères. Et ensuite, je rentre dans mon rôle de méchant tortionnaire. C'est moi le bad cop, en fait. Je leur rends des visites régulièrement. C'est mon rôle de méchant.
Pour mieux comprendre à quoi ressemble un interrogatoire, les instructeurs simulent ce face-à-face.
What's your name? What is your fucking name, guy? Hey, look at me, look at my eyes. What is your fucking name? Hey, answer. Greg is not a name. Hey.
L'objectif, c'est de créer un climat d'angoisse incertain qui pourrait coller à ce qui est rencontré en cas de captivité.
Un scénario hyper réaliste, rude, mais physiquement jamais violent, insiste l'instructeur Grégory.
On joue des rôles d'acteurs. L'objectif, c'est de créer une ambiance, une atmosphère. Donc ça va passer par l'environnement. On essaie de coller au plus près de la réalité avec cette mise en scène.
Savoir conserver l'intérêt des ravisseurs et ne pas livrer contre sa volonté des informations personnelles à l'ennemi. Par conséquent, les instructeurs alertent désormais les stagiaires sur les dangers que représentent les réseaux sociaux.
On procède à des recherches basiques sur les réseaux sociaux. Si on trouve des choses, on peut être amené à aller confronter le stagiaire à ces données, de manière à le sensibiliser sur le fait que c'est accessible par tout le monde et que justement ça peut être préjudiciable dans une situation de détention. Le stagiaire, à la fin, peut faire le point sur ses réseaux et se rendre compte de la vulnérabilité à laquelle il peut être confronté en utilisant ses réseaux. Et parfois, ce n'est pas de sa personne, ça peut venir des amis. Et c'est là que c'est le pire, c'est quand on ne s'y attend pas, que l'information est retrouvée par le biais d'un ami qui a posté une image avec de la famille de la personne. Et là, ça peut devenir complexe.
La vie des pilotes est précieuse. Voilà pourquoi, avant chaque départ sur un théâtre d'opération extérieur, le personnel navigant rafraîchit ses connaissances et passe obligatoirement un test d'aptitude à la survie et au sauvetage.
Il faut sauver les pilotes, un grand reportage de Franck Alexandre, réalisation Pierre Chaffangeon.